Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés.
La réunion de la dernière chance à Matignon, le Premier ministre reçoit demain et mardi les partenaires sociaux pour parler retraite. La CGT ira bien, la CFDT elle se réserve le droit de rejoindre le mouvement du 5 décembre mais juge que le gouvernement a les yeux plus gros que le ventre. Le rapport choque également de trois organisations françaises sur les pratiques d'Amazon, conditions de travail des salariés, optimisation fiscale, empreinte environnementale. Le géant de l'e-commerce réfute toutes les accusations. Quel impact à quelques jours des achats de Noël? On en débat avec Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, François Ehrenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Judith Weintraub, journaliste au Figaro Magazine et Serge Simino, journaliste au service politique de France 3. On est ensemble jusqu'à 21h. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous.
Bonsoir.
Jusqu'à 21h à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Mais d'abord, le bilan des pluies diluviennes de ces dernières heures sur la Côte d'Azur, 2 morts et 4 disparus, nous dit le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en déplacement sur place.
Trop souvent dans notre pays, on n'a pas la mémoire du risque. On a oublié ce qui, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avait frappé un territoire. Et on a construit, on a développé, on a imperméabilisé les sols. C'est-à-dire que du coup, on a neutralisé les mouvements naturels de l'eau. Et donc, c'est tous ces sujets-là sur lesquels nous devons être vigilants. C'est un combat. C'est un combat de conscience par rapport à ce que l'on laisse faire en termes de construction. Et le Var, les Alpes-Maritimes, par exemple, en quelques années, ce sont des départements qui ont doublé les surfaces qui sont imperméabilisées de sol. Et donc forcément, ça a ensuite des conséquences. Et donc, il nous faut aussi nous adapter sur cela.
François Ehrenwein, c'est la faute de l'urbanisation?
Certainement, elle joue un rôle. Enfin, les phénomènes météorologiques et leurs conséquences sont des phénomènes complexes, dont les causalités uniques, ça ne marche pas. Mais c'est vrai que l'artificialisation des sols a des effets sur le ruissellement, provoque des courants d'eau très rapides et accélérés dans la pente. Mais ces phénomènes sont anciens, c'est l'activité humaine a toujours eu des effets. Moi, je connais très bien l'histoire du Mont Aigoual. C'est ça, on a coupé les arbres au 19e siècle, il a fallu replanter pour éviter des catastrophes au pied de la montagne. C'est toujours cette même logique quand l'homme s'attaque à la nature de manière désordonnée avec un objectif de rentabilité effrénée, les conséquences sont parfois dramatiques, c'est le cas là.
Judith Weintraub, le discours que tient Christophe Castaner, on l'a entendu auparavant, notamment au moment de la tempête Xynthia, c'est un discours politique qui revient régulièrement, mais concrètement, est-ce que les choses changent sur le terrain ?
Assez peu, on a l'impression, même dans les reportages là sur les inondations, quand on entend parler les victimes, ils disent que ce sont des phénomènes récurrents. Ils savent très bien qu'une certaine partie de la ville ou du village est touchée. À chaque fois qu'il y a une inondation, les maisons sont touchées. Parce qu'il n'y a pas simplement le fait que l'urbanisation n'ait pas tenu compte de ces phénomènes. Il y a aussi la responsabilité individuelle. Alors c'est horrible de dire ça, alors que des gens voient leur maison dévastée par les eaux, c'est abominable, une inondation, mais il y a la responsabilité individuelle aussi. Alors, est-ce qu'il faut le faire autoritairement? Est-ce qu'il faut interdire aux gens de s'installer dans des zones qu'on sait à risque? Parce qu'on le sait, c'est une question lourde pour un politique.
Dans ce cas-là, on aura les protestations contre la réglementation excessive, l'État envahissant ou les communes qui se mêlent le tout. C'est très difficile pour les pouvoirs publics d'empêcher cette pression urbaine, notamment sur les côtes. On voit bien, aujourd'hui, 9 Français sur 10 rêvent de vivre au bord de la mer. Et ça a une pression sur toutes les côtes françaises qui est très importante.
Avec en toile de fond, quand même, le réchauffement climatique, qui fait que ces épisodes cévenols sont de plus en plus fréquents.
On en a vu à Venise récemment aussi des inondations.
Exactement, dans les Cévennes, de la même façon, c'est vraiment un épisode. Les terres sont très sèches avec le réchauffement climatique. Du coup, dès qu'il se met à pleuvoir et il pleut, il y a une pluviométrie qui est extrêmement importante dans ces zones. L'eau, les sols ne peuvent pas absorber cette eau. Donc c'est aussi en toile de fond, c'est aussi le débat sur le réchauffement climatique et c'est peut-être aussi à ça que les pouvoirs publics devraient réfléchir très sérieusement.
Serge Simino, journaliste politique chez France 3, est-ce qu'il y a un manque de courage des élus sur les plans d'urbanisation ?
Je ne sais pas si c'est un manque de courage, mais c'est vrai qu'il y a une pression dans certaines urbanisations.
François le disait, ceux qui construisent au bord de la mer, bon, ça c'est une chose. Après, est-ce qu'un élu doit céder ? A priori, non. Mais c'est marrant, sur la météo, on parle toujours d'une certaine fatalité. Tiens, il pleut beaucoup, il pleut de plus en plus. Mais malgré tout, ces deux départements, le Var et les Alpes-Maritimes, le ministre de l'Intérieur le rappelait, font partie des départements où on a doublé ces fameuses surfaces imperméabilisées. Donc c'est pour l'urbanisation. Donc à un moment donné, ça accentue le ruissellement, ça accentue même des phénomènes de sécheresse. Dans les deux cas, c'est la chose. Donc il y a quand même à un moment donné, la main de l'homme qui ne peut pas simplement dire il pleut beaucoup. Quant au réchauffement climatique, apparemment, bon, sur ce domaine-là, les gens de Météo France disent que bon, c'est un épisode méditerranéen qui est la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui n'est pas forcément lié au réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'on a
tout ça en fait. Et par ailleurs, la France fait beaucoup. Oui. Alors, c'est pas, voilà. Il faudrait peut-être que la France se mette à faire quelque chose. La France fait énormément.
Oui, mais juste sur l'urbanisation, une fois que le ministre de l'Intérieur va rentrer place Beauvau, qu'est-ce qu'il compte faire ? Réunir des maires, parler de cette urbanisation. Non, il est allé pour le dire. Le risque est derrière nous, j'espère, pour les gens qui habitent là-bas. Pour le reste, j'ai pas entendu parler d'un Grenelle de l'urbanisation.
C'est vrai que ça manque.
Ça manque. Justement, hein. Julie Ventroux, est-ce que l'État peut contraindre les communes à des plans d'urbanisation, allez, disons, plus verts?
Ça me paraît extrêmement compliqué. On est déjà parmi les champions du monde des normes. Malheureusement, si les normes étaient toutes nécessaires, utiles et efficaces, ça se saurait. C'est pas le cas.
C'est pas le cas. En tout cas, le ministre qui promet un certain nombre de réunions, et notamment avec sa collègue du ministère de l'Écologie, Elisabeth Borne, pour essayer d'accompagner ces communes et notamment accompagner également les sinistrés face aux assurances. 20h10 sur France Info, le rappel de l'information, Guillaume Fariol.
La décrue en cours sur la Côte d'Azur après les pluies diluviennes d'hier et de la nuit dernière. Le risque est derrière nous, dit le ministre de l'Intérieur en visite dans le Var. Ces intempéries ont fait 2 morts, au moins 3 personnes toujours portées disparues. Une enquête en cours pour déterminer l'origine de l'incendie d'un immeuble d'Ivry-sur-Serne dans le Val-de-Marne. Le feu s'est déclenché en fin de matinée, 2 personnes sont mortes. Le bâtiment abritait plusieurs squats selon le maire de la ville. À l'approche de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites, la ministre du Travail appelle les employeurs à être compréhensifs avec leurs salariés, ceux qui auront du mal à se rendre au travail à cause de la grève dans les transports. À Hong Kong, la participation aux élections locales dépasse les 70% en mobilisation, record après 6 mois de contestation contre l'influence de la Chine. Le mouvement pro-démocratie espère de bons résultats pour accroître la pression sur les autorités pro-Pékin. Sa fortune est estimée à plus de 50 milliards de dollars. Michael Bloomberg, ancien maire de New York, se lance dans la course à la présidentielle américaine. Il est officiellement candidat à l'investiture démocrate. Et puis la 14e journée de Ligue 1 de football, Bordeaux s'impose 2-1 contre Monaco. Match nul, 0 partout pour Saint-Étienne-Montpellier. Et puis à 21h, Toulouse reçoit Marseille.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Dernier round avant la grève, c'est la une de La Croix. Demain, votre journal, mon cher François Hernenwein, qui s'intéresse à ces rencontres de la dernière chance, si je puis dire. Le Premier ministre reçoit à partir de demain les partenaires sociaux pour parler retraite. La CGT ira et elle a une question à lui poser.
Nous y allons premièrement pour dire qui s'occupe des retraites aujourd'hui en ce pays. Est-ce que c'est toujours M. Delevoye ? Est-ce que c'est Monsieur Djebari ? Est-ce que c'est Édouard Philippe ? Est-ce que c'est le président de la République ? Ça devient difficile à comprendre. D'autant qu'à chaque fois qu'un ministre intervient, c'est soit pour dire on va travailler plus longtemps, on va augmenter le nombre de trimestres, on nous a inventé maintenant la clause grand-père. Nous, on aimerait savoir qui s'occupe des retraites dans ce pays.
François Hernenwein, la clause grand-père, on y reviendra nous aussi, hein, mais... Il pose une question, Philippe Martinez. Qui s'occupe des retraites dans ce pays ?
Il a raison d'aborder dans sa position le débat de cette manière-là, parce que les partenaires sociaux, et pas seulement Philippe Martinez, mais Laurent Berger dit la même chose, il faut qu'il y ait une clarification sur le contenu de ce projet, jusqu'où il ira, qu'est-ce qu'il comporte, est-ce qu'il vise accessoirement à rétablir les comptes à très court terme ? C'est ça la question, quand Laurent Berger ne veut pas qu'on touche aux paramètres, son inquiétude vient de là. Donc il y a beaucoup de choses, mais dans la gouvernance construite sur la logique en même temps, Beaucoup de projets ont connu ce séquençage. C'est-à-dire qu'il faut attendre les dernières minutes pour y voir clair. Alors on peut dire que c'est la tactique de négociation, c'est assez habile, mais là je pense que ça provoque de la confusion, et la confusion n'est pas bonne en ce moment dans le rapport de force qui est en train de s'installer dans le pays entre le projet du gouvernement et la mobilisation sociale qui est forte, me semble-t-il.
Armel Le Goff, la dernière minute, c'est demain, après-demain, c'est Matignon, il peut en sortir quelque chose ?
Ou les arbitrages d'Emmanuel Macron, parce qu'on voit que sur de nombreux dossiers, finalement, il y a des personnes qui sont en charge, c'est Delevoye, mais finalement, qui met sur la table le premier la clause du grand-père ? Ben, c'est Emmanuel Macron. Une clause qui n'était pas du tout prévue dans le rapport de Delevoye. Donc, en gros, le brouillage, finalement, sur cette réforme, il vient pas ni de Matignon, ni de Delevoye, mais il vient plutôt d'Emmanuel Macron, qui, sans doute, enfin, comme on l'a vu aussi sur le débat sur les gilets jaunes, est le dernier à intervenir dans le débat et à venir face à face dans des grands débats avec nos concitoyens. Et on a le sentiment que c'est cet arbitrage-là qui pourrait s'opérer encore une fois.
Judith Weintraub, est-ce que Emmanuel Macron brouille les cartes, comme le dit Armel Le Goff ?
Oui, et je crois que il n'a pas l'intention de clarifier quoi que ce soit avant le 5 décembre. Je crains fort qu'il ne sorte rien de ce nouveau round de négociations, cette fois à Matignon, lundi et mardi.
Il ne s'agit même pas d'enfoncer un coin dans l'unité syndicale.
Si, alors là c'est autre chose. On a vu à l'œuvre une stratégie avec plusieurs étapes, par exemple la publication fort opportune d'un rapport des comptes qui nous apprend que c'est des signes de dément. On a beaucoup d'avantages quand on travaille à la SNCF. Emmanuel Macron veut à tout prix éviter la convergence des mécontentements. Donc il organise ou il essaie d'organiser la divergence des luttes en ouvrant les vannes, en arrosant l'hôpital. Pas assez, disent-ils, mais de toute façon, c'est quand même pas mal de milliards. En arrosant la police, en disant que la notion de déficit limité à 3% du PIB est une notion obsolète et d'un autre siècle, hein, c'est la formule qu'il a. Donc la divergence, c'est ce qu'il veut faire avant le 5 décembre, mais il ne peut pas, à mon sens, révéler le point d'aboutissement de la réforme, parce que cette réforme va faire des mécontents, et notamment dans le privé, où la simple histoire de la prise en compte, non pas des 25 meilleures années, mais de toute la carrière pour le calcul de la retraite, entraîne mécaniquement une baisse des pensions.
Serge Siminot.
Oui, alors je crois que à l'Élysée on parle d'un mur, le mur du 5 décembre. Alors moi je me demande si ils veulent le franchir ou le prendre de front, parce qu'en fait on est depuis 2-3 jours dans une séquence très simple, c'est de tenter de créer des divergences en disant, je crois que c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, qui disait ce sera une grève pour les inégalités. Le président de la République dit clairement que c'est une grève pour les régimes spéciaux.
Donc, et si pas je
pour
comprends le... bien plus l'opinion que le dialogue social.
Pour l'instant en tout cas c'est ça. Alors je pense que les rôles sont très bien répartis, ces gens-là voit souvent. Le Premier ministre, demain, ouvre une nouvelle séquence donc de 2 jours avec les partenaires sociaux, mais il est vrai qu'il manque quand même quelque chose dans ce débat. De quel texte parle-t-on ? De quelle réforme des retraites parle-t-on ? Parce qu'à un moment donné, chacun est dans sa position, ce qui est tout à fait normal. Philippe Martinez a raison de dire qu'il ne sait pas qui dirige cette réforme, mais les Français ont besoin de savoir quel texte. Judith le disait, le fait qu'on calcule sur la moyenne de la rémunération sur toute sa vie, ça va faire baisser les pensions, ça n'intéresse pas que les régimes spéciaux. Donc on parle d'un régime universel, mais je crois que le problème devient universel. Et là-dessus, je pense que le gouvernement, mais c'est pas moi qui vais les conseiller, doivent trancher et proposer un texte. Et après, on verra si le texte il y a, ce qui se passera le 5 décembre. Ou alors, et j'ai fini, on attend le 5 décembre et on voit quel texte on propose au bout du compte. Mais je pense que c'est un risque assez dangereux, politiquement parlant.
Armel Le Goff, à qui profite le flou aujourd'hui ?
On se demande, parce qu'en plus, au départ, cette réforme qui est systémique est une réforme de justice et d'équité, de mise à plat de tout un système où tout le monde perd beaucoup, les salariés, enfin, où tout le monde, potentiellement tout le monde peut perdre un peu, en tout cas les salariés du privé, mais aussi ceux du public, quand
beaucoup
même.
Beaucoup peuvent perdre un peu.
Ouais. En tout cas, ou on se dit pour l'intérêt beaucoup. Collectif et on peut tous perdre un petit peu avec l'avantage que les inégalités hommes-femmes soient quelque peu lissées, que les parcours des salariés du privé qui sont parfois hachés plus hachés que ceux qui rentrent à la SNCF, avec pour objectif a priori d'y rester, soit pareil, de ces inégalités-là, soit lissées. Et en fait, il y a deux choses qui se conjuguent. Il y a donc cet objectif de réforme, qui pourrait être une réforme d'équité, et puis il y a cet objectif de maintien du système et de remise à flot avec des déficits, qui n'était pas prévu au départ, donc ça déjà ça met du flou. Et ensuite là il y a ce flou qui est entretenu par le gouvernement sur cette réforme, et c'est dommage parce que c'est anxiogène, les retraites. C'est un sujet extrêmement anxiogène. On voit que même les moins de 30 ans sont 80% à se dire je n'aurai sans doute pas de retraite ou j'aurai des problèmes avec ma retraite. Donc que pour que même eux qui en sont encore loin soient préoccupés par ce sujet, déjà, on imagine travail, le niveau d'anxiété de nos concitoyens.
Judith Weintraub et François Hernandez.
Mais en fait, le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites qui a été commandé par Édouard Philippe fait ressurgir le désaccord qui existait entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur réforme systémique ou réforme paramétrique, c'est-à-dire est-ce qu'on recule l'âge de la retraite ? Essentiellement. Édouard Philippe était pour, Emmanuel Macron lui a dit non, c'est pas possible, je m'étais engagé pendant la campagne à maintenir l'âge de la retraite où il était, et on s'aperçoit que non seulement il n'est pas certain que l'exécutif parvienne à réformer, mais qu'en plus cette réforme ne suffira pas à équilibrer le système. Il y a, et j'en finis par là, il y a un postulat de base, nos voisins européens partent à la retraite plus tard que nous avec des pensions moins généreuses. Par quel miracle la France pourrait se dispenser de faire un effort ?
François Hollande.
On n'est pas sur le fond du dossier. Là, je pense qu'on est magique. On examine la stratégie. Et vouloir faire deux choses en même temps, avec des conséquences aussi importantes, l'une et l'autre, pour les retraités, les futurs retraités, ça me paraît être une ambition un peu démesuré.
Et c'est ce que dit aussi, c'est ce que dit Laurent Berger, hein, François.
Ben voilà.
Ce que dit Laurent Berger, mais
je m'excuse de dire la même chose.
Non, mais d'ailleurs, pour le coup, on va l'écouter, Laurent Berger, juste après le rappel de l'information, car il est 20h20 sur France Info et Guillaume Farieux nous a rejoint.
Au moins 3 personnes portées disparues dans le Var après les intempéries sur la Côte d'Azur. Un couple de retraités introuvables depuis hier. Et puis une personne âgée disparue près d'un cours d'eau en crue. Ces intempéries ont aussi fait 2 morts. Le Var toujours ce soir en vigilance orange inondation, tout comme le Puy-de-Dôme. Des pluies diluviennes aussi dans le nord de l'Italie. Une femme est morte, sa voiture emportée par les eaux. De gros dégâts également, une portion d'un viaduc sur l'A6 s'est effondrée entre Turin et Savone. L'écroulement n'a a priori pas fait de blessés. Le bâtiment était ancien mais ne présentait pas de signes urgents de péril. C'est ce qu'explique sur France Info le maire d'Ivry-sur-Seine après l'incendie d'un immeuble de cette ville du Val-de-Marne. 2 morts et 5 blessés, dont un grave. 11 migrants secourus dans la Manche au large de Boulogne-sur-Mer. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Tous ont été pris en charge par le SAMU du Pas-de-Calais. Avant la fin du Grenelle contre les violences conjugales, demain, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes annonce la création de centres de prise en charge des hommes violents. Le gouvernement va lancer un appel à candidature pour en créer 2 par région. Ces structures destinées à éviter la récidive, explique Marlène Schiappa dans Le Figaro. Et puis la Coupe d'Europe de rugby, Montpellier s'impose face aux Anglais de Gloucester. En revanche, c'est perdu pour La Rochelle contre les Sharks de Sail.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Le gouvernement donne le sentiment de tourner autour du pot, écrit La Croix demain sur le dossier des retraites. Laurent Berger, invité de Questions politiques sur France Info, juge quant à lui que l'exécutif a les yeux plus gros que le ventre.
Ce qui est sûr, c'est que s'il y a à un moment donné une mesure paramétrique dans le projet de loi qui sera déposé, qui n'est pas déposé, qui n'est même pas commencé à être écrit, donc s'il y a en décembre ou début janvier, un projet de loi qui est déposé avec une mesure paramétrique, la CFDT appellera les salariés à se mobiliser. Je dis simplement qu'aujourd'hui, vouloir courir 2 lièvres à la fois, d'accord, qui est la question de l'équilibre financier des retraites, qui n'est pas une question urgente pour la CFDT, et en même temps, vouloir créer ce système universel des retraites qui crée des interrogations parce qu'on bouge, parce qu'on change, eh bien c'est irresponsable, ça ne marchera pas et je m'y opposerai.
François Hollande, il dit exactement la même chose que vous, Laurent Berger. Le gouvernement est trop gourmand pour lui.
On ne s'est pas concerté, mais il y a une logique dans le raisonnement et c'est pour ça que la convergence, là, existe dans l'évaluation. Eh bien, c'est vrai, enfin, la raison commande d'avoir des ambitions qu'on est capable de pouvoir conduire à terme, surtout, et ça a été rappelé tout à l'heure, l'enjeu c'est quand même une réforme qui provoque un lissage sur la question des retraites et une forme d'équité. Alors on a assez reproché à ce gouvernement de ne pas se soucier d'équité pour qu'il gâche sa chance à cette occasion-là par une surenchère sur l'équilibre des comptes. C'est pas secondaire ces questions-là, mais enfin tout faire en même temps. Enfin, on apprend ça dans les écoles de gestion. Il y en a beaucoup en France. Ce discours est assez convenu. Ben, dans les écoles de gestion, on apprend à étaler la pensée PowerPoint. Ça sert quand même à voir quelles sont les limites de la précipitation.
Serge Simino, puis Julie Ventroux.
Oui, on a entendu à la fois Philippe Martinez et maintenant Laurent Berger. Il y a aussi quand même, il ne faut pas oublier, ce jeu entre confédérations syndicales. D'un côté, Laurent Berger, qui a toujours dit qu'il était favorable à ce système universel, qui veut continuer à jouer ce rôle de négociateur, il est très en même temps, hein, comme le président de la République, sur des thèmes pas toujours identiques, mais il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas sûr que la CFDT cheminots, certes, il y a un préavis, mais c'est pas sûr qu'il soit dans la rue. Donc il est en train de les rattraper un petit peu par le col. Et puis donc Philippe Martinez, qui est dans sa logique classique frontale. Donc attention aussi à ce jeu-là, qui est clairement établi, et on verra demain, puisque je crois que c'est Laurent Berger qui sera reçu lundi et Philippe Martinez mardi, on verra dans les déclarations des uns et des autres si le gouvernement a décidé enfin d'écrire ce projet qui me semble quand même bien avancé, et on verra s'il est bergérisé ou s'il est anti-Philippe Martinez.
Julie Ventroux.
Oui, il est assez, mais c'est tout à fait vrai, mais il est assez ennuyé, Laurent Berger, que la CFDT cheminot se soit durci comme ça, d'où ses déclarations, qui ne sont pas non plus d'une limpidité parfaite. Et quand il dit qu'il n'y a pas de problème d'équilibre, que c'est l'épaisseur du trait, c'est un peu ennuyeux aussi qu'il nie complètement, qui est aussi un débat légitime sur ce point-là. Parce qu'il y en a, donc effectivement, cette concurrence syndicale le pousse à durcir le ton. Je pense qu'en plus, il est sincèrement agacé, il l'a dit l'autre jour à la radio, d'avoir vu débarquer cette clause du grand-père dont nous a-t-il dit il ignorait jusqu'à l'existence avant que Emmanuel Macron en parle, il ne savait même pas ce que c'était.
Ici, c'est Alain Minc qui a soufflé l'idée.
Oui. Donc, il est très agacé, il est coincé d'un côté par sa base qui est dure et qui veut de moins en moins de la réforme, et un Emmanuel Macron qui ne l'aide pas. C'est une espèce d'ultimatum en fait qu'il a lancé Emmanuel Macron. Dites-moi où vous allez quand vous me verrez à Matignon, et je crains qu'il soit déçu.
Armel Le Goff, le gouvernement doit lever l'ambiguïté avant le 5 décembre, ça changerait quelque chose ?
Ça semble un petit peu compliqué, parce qu'après, le danger, c'est toujours quand on annonce avant un mouvement de mobilisation, une fois que le mouvement est lancé et on ne sait pas ce mouvement va agréger précisément. Enfin, on sait, il y a un certain nombre de personnes qui ont déposé des préavis de grève, mais jour après jour, il y a de nouvelles confédérations qui s'ajoutent, il y a les routiers aujourd'hui, on ne sait pas à quel point vont se mobiliser d'autres gens comme les étudiants.
Il y a d'autres foyers qui peuvent se réveiller.
Il y a d'autres foyers qui peuvent se réveiller. Et si on a trop mis de choses sur la table, après, on est en peine de rattraper le mouvement quand il est embarqué.
Serge Simino, journaliste politique à France 3. Est-ce que la majorité La République En Marche est suffisamment solide pour affronter l'âpreté des semaines à venir ?
Je crois que là, ça se passe entre l'exécutif, le gouvernement et la rue. Je ne veux pas faire un procès d'intention aux députés de La République En Marche, mais c'est un mouvement qui va, sauf pour ceux qui sont d'anciens partis comme le PS, c'est un mouvement qui est enfin, je pense assez nouveau, dans le sens où il y a quand même
Devoir retourner dans leur circonscription. On avait vu.
C'est pas comme si c'était rien passé toute cette année. Il y a les gilets jaunes, il y a tout un tas de revendications. On parlait de l'hôpital. Il y a les revendications catégorielles qui sont tombées comme les feuilles pendant l'automne. Donc c'est un 5 décembre qui n'est pas qu'un problème lié aux retraites. Il y a un climat. Le président de la République disait que le pays était trop négatif, mais je pense que c'est un peu oui chez les bisounours de penser que ces colères-là ne vont pas aboutir le 5 décembre et au-delà, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, de préavis pardon, qui sont reconductibles.
Il y a un élément de réponse à votre question sur la solidité politique de la majorité, c'est le MoDem et l'UDI qui se sont prononcés pour un Grenelle des salaires. C'est vraiment le coup de pied de l'âne.
Et pour le coup, proposition rejetée par Matignon. Dans quelques instants, on poursuit ce débat sur les retraites. La droite veut réquisitionner des grévistes le 5 décembre. Est-ce possible ? Réponse après la météo et le journal. We'll be right back. Mais d'abord le trafic, Caroline Félix, reprise sur les rails après les intempéries.
Oui, dans le sud-est, les rails ont été déblayés et sécurisés. 80% du trafic sera assuré demain matin, d'après la SNCF. Mais certaines dessertes sont modifiées, donc vérifiez bien vos horaires. Et puis attention, si vous prenez l'autoroute A8 pour aller travailler demain matin, il y aura encore deux sorties fermées à Villeneuve-Loubet en direction d'Aix et l'échangeur de Mandelieu dans les deux sens. À Paris, ça roule bien, 41 km de bouchons seulement ce soir, mais prudence avec ces deux accidents successifs sur le périphérique extérieur à hauteur de Porte de la Villette. Et ça coince aussi sur l'A86 intérieure à Gennevilliers, près de Paris. Il y a un accrochage entre une voiture et une moto sur la voie de gauche.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Vous êtes bien sûr France Info, les prévisions météo avec Jean-Michel Golinski.
La bonne nouvelle de ces prochains jours, c'est le maintien d'un temps sec sur les régions méditerranéennes et de la poursuite favorable de la décrue. En revanche, sur le reste du pays, la semaine sera perturbée, donc pluvieuse, souvent ventée, en particulier demain sur le quart nord-ouest. Aujourd'hui, le parapluie va s'avérer indispensable ce matin sur la moitié ouest du territoire, puis au fil de l'après-midi sur les régions de l'est. À noter qu'avant l'arrivée de la pluie et d'un ciel de plus en plus chargé, l'ambiance sera lumineuse et qu'en cours de journée, un temps plus variable va s'installer par la façade atlantique, mais avec un risque d'ondée. Dans ce flux de secteur ouest, les températures vont gagner un peu par rapport à hier. Sans geler la nuit, les valeurs de l'après-midi vont afficher une moyenne de 13 degrés dans la moitié nord et de 15 dans la moitié sud.
h30 France Info, toute l'information avec vous Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Naïla, bonsoir à tous. Lourd bilan après les violentes intempéries sur la Côte d'Azur, deux morts, plusieurs disparus. Le ministre d'Intérieur Christophe Castaner est venu aujourd'hui dans les zones sinistrées où la décrue est en cours après deux jours de pluie diluvienne. Au total, les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont effectué 2000 interventions, dont 171 hélitreuillages dans la nuit pour sauver des personnes menacées par les flots. Deux morts dans un incendie à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, une troisième personne est dans un état grave. L'incendie s'est produit dans un appartement du rez-de-chaussée d'un immeuble squatté, appartement muré. Alexandre Frémont de France Bleu Paris.
Sur place, on sent encore la fumée, on sent encore le brûlé. Les pompiers sont encore en train d'évacuer les débris du rez-de-chaussée, des matelas, des frigos, du matériel électroménager. Bref, tout a brûlé au rez-de-chaussée et même au premier étage de cet immeuble. Il y avait même encore un peu de fumée qui se dégageait tout à l'heure. Malinga, l'un des habitants de la quinzaine d'appartements de cet immeuble, est arrivé lui cette année. Il nous raconte que pour lui, le feu a pris très tôt ce matin. Il habite au troisième étage. La fumée l'a pris à la gorge très rapidement. Il crachait du noir et se sentait même un peu étouffé au moment de l'arrivée des secours. Deux des trois fenêtres du rez-de-chaussée étaient murées par prévention d'un éventuel squat, nous disait la mairie. Un des habitants, lui, nous explique que des voisins sont venus aider pour casser ces briques et évacuer des personnes. Un locataire a même aidé deux personnes à sortir indemnes. Les services de la mairie ont relevé tous les noms des habitants. Ils les ont évacués vers un gymnase d'Ivry-sur-Seine, non loin de l'immeuble. Les services sociaux doivent passer demain matin. La rue est encore bloquée et elle le restera pour une bonne partie de la semaine prochaine.
Alexandre Frémont de France Bleu, Paris, à quelques jours du Black Friday. Attaque, les Amis de la Terre et Solidaires dénoncent l'impact environnemental d'Amazon, pointant du doigt la livraison rapide, source d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la destruction des invendus. Les associations accusent aussi le géant américain d'avoir dissimulé plus de la moitié de son chiffre d'affaires réalisé en France en 2017 grâce à des filiales au Luxembourg. Amazon dénonce de son côté des spéculations sans fondement. Participation historique à Hong Kong après des mois de contestation et de chaos. Plus de 70% des électeurs inscrits dans l'ancienne colonie britannique se sont déplacés pour ces élections locales. Résultat toujours à venir. En Bolivie, la présidente par intérim Jeanine Agnès annonce de nouvelles élections présidentielles et législatives, mais sans la participation de l'ex-président Evo Morales. Ces scrutins sont censés pacifier le pays d'Amérique du Sud où des violences ont fait 32 morts en un mois. Le pape au Japon, il a visité Nagasaki puis Hiroshima, les deux villes martyrs de la bombe atomique de 1945. Le souverain pontife qui a dénoncé la logique de la dissuasion nucléaire garantissant la paix. Une fausse sécurité qui, selon lui, envenime au contraire les tensions dans le monde. Le souverain pontife doit rencontrer demain lundi des victimes du séisme et du tsunami de 2011, suivi de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Les informés, ça continue tout de suite sur France Info. Naïla Latrousse.
20h, 21h, les informer, Neila Latrousse.
Avec toujours Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, François Hernanwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Judith Weintraub, journaliste politique au Figaro Magazine, et Serge Simino, journaliste au service politique de France 3. La droite, le 5 décembre, veut un service minimum garanti pour éviter la paralysie totale dans les transports. Impossible, répond la ministre du Travail, qui appelle en revanche les employeurs à faire preuve de plus de souplesse.
Je voudrais passer un message aux employeurs et aux salariés, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, pour leur rappeler que depuis les ordonnances travail, le télétravail est un droit et qu'il suffit d'un simple échange d'email entre le salarié et l'employeur. Donc ce jour-là, je pense, tous les métiers s'y prêtent pas, mais il y a beaucoup de métiers où ça s'y prête. Mmh. Donc il faut pas demander aux gens de faire des acrobaties pour faire 4 heures de blocage. Voilà. Non mais j'ai juste que je demande aux employeurs d'être compréhensifs là-dessus.
Armelle Le Goff, la solution est toute trouvée, le télétravail pour tous.
Ben, ça dépend si c'est possible. Je pense que, par exemple, dans les écoles ou pour ce genre de situation, le télétravail n'est pas forcément indiqué. Ça risque d'être un peu compliqué aussi pour les gens qui télétravaillent avec des enfants à la maison.
Voilà, ce que dit la ministre, c'est que, de fait, ça va être compliqué le 5 décembre. Oui. C'est l'aveu gouvernemental. C'est ça dont il s'agit.
Oui, oui, tout à fait, ça va être compliqué parce qu'on a vu, il y a eu une grève RATP, par exemple, à Paris qui a été extrêmement suivie. Enfin, on sait que ça va être extrêmement suivi au moins le 5 décembre. C'est un mouvement qui part de la base hein, pour beaucoup à la RATP, à la SNCF. Donc ça risque d'être très fort.
Judith Weintraub, le télétravail, un jour, si c'est possible, si l'emploi s'y prête, bon, bah, ça peut dépanner. Et si la grève dure, il y a un plan ?
Non, mais là, je trouve la réponse de Muriel Pénicaud, je comprends bien pourquoi elle l'a fait. Elle ne veut pas, elle, jeter de l'huile sur le feu, mais elle est complètement à côté de la plaque. Moi, je vois pas du tout pourquoi ce serait pas possible de faire un service minimum dans les transports, comme c'est fait dans les hôpitaux, par exemple. Je ne vois pas pourquoi un corps de métier, parce qu'il occupe une fonction stratégique et vitale, aurait le droit de bloquer tout un pays, alors qu'il ne peut pas se prévaloir du soutien de tout un pays. Bon, alors, il y a eu un sondage, 60% des Français soutiennent la journée du 5 décembre. Mais c'est un pouvoir exorbitant donné aux syndicats.
Serge Simino, il faut faire évoluer la loi sur le service minimum.
Je ne sais pas, Nicolas Sarkozy avait dit qu'on ne verrait plus jamais un conflit dans les transports, que ce ne serait plus visible. Donc je suis très étonné que ça puisse encore inquiéter la droite. Il faut quand même... On va parler juste, je vais pas parler du fond, mais c'est donc le chef de file des sénateurs sur Retailleau qui a proposé ça. Donc elle n'est pas, pour l'instant, pas déposée, cette proposition. Et bien évidemment, elle ne passera pas. Et si elle passait, ce serait pas pour le 5 décembre. Donc ça, on peut le mettre de côté.
C'est-à-dire, c'est de la posture pour l'instant.
Oui, c'est que la droite veut rappeler qu'elle est pour un service minimum garanti, ce qui se tient. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Après. Et Muriel Pénicaud et lui, dans cette affaire-là, sont sur deux postures politiques tout à fait classiques et qui sont pas nouvelles. Après, le service minimum et s'attaquer au droit de grève, c'est toujours le débat qui est en cause. Je pense qu'on est en train d'atteindre une limite qui me semble atteindre le droit de grève. Après, ça n'enlève en rien le fait que ce sera difficile pour les salariés, quels qu'ils soient. Quant au télétravail, je pense que Madame Pénicaud devrait regarder qui travaille. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui pourront tous se transformer en télétravail. Du 5 décembre, peut-être jusqu'à Noël.
François Hernanwein.
Mais moi, ce qui me frappe, j'étais d'accord avec Laurent Berger tout à l'heure. Là, maintenant, je vais être d'accord avec Philippe Martinez. Il n'y a qu'à supprimer le droit de grève. Dans cette logique, il faut admettre quand même que les conflits sociaux, ça existe. Des contradictions entre l'État, les employeurs et les salariés, ça existe. Et cette possibilité doit pouvoir s'exprimer. Et dans le rapport de force, je rappelle que quand même dans les négociations sociales, ce ne sont en général pas les salariés qui ont la main, et dans les relations sociales en général. Donc le droit de grève, moi je pense qu'il est inscrit dans la Constitution, et faut pas essayer d'inventer un Canada Dry de la grève, qui serait de la grève sans la grève, avec le goût de la grève, mais la couleur de la grève, mais qui serait pas la grève.
Ce que vous dites, Judith Weintraub, c'est que pour les pompiers, pour les hôpitaux...
Mais bien sûr, mais là il s'agit d'urgence, d'urgence vitale. Moi je vous le dis franchement, je suis profondément choqué que des républicains au Sénat puissent remettre en cause la possibilité d'exercer son droit de grève.
C'est surtout qu'il me faut... Je pense que c'est vraiment pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. Honnêtement, enfin, je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, cette proposition de loi est vouée à disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Ça n'a aucun sens.
Je dis bien trop.
Stratégiquement, ce que fait la droite, c'est qu'elle prend date dans l'hypothèse qui est... tout à fait probable que l'opinion ne soutienne pas un mouvement de longue durée. Quand le rapport de la Cour des comptes sur les privilèges, j'insiste sur le mot, les privilèges des agents de la SNCF est sorti, vous n'avez pas eu un grand mouvement populaire en disant c'est parfaitement mérité, c'est très très bien, il faut que ça continue. C'est ça le pari de la droite, c'est d'enfoncer ce coin-là. Par ailleurs, il ne s'agit pas de restaurer un service normal aux urgences. Les urgentistes qui font grève, on ne s'en aperçoit pas en fait, puisqu'ils ont des brassards et ils continuent à soigner les gens qui ne sont pas tous en danger de mort, heureusement, tout à fait normalement. Il ne s'agit pas non plus d'annihiler ou d'interdire la grève, il s'agit d'organiser quelques heures par jour aux heures où c'est absolument vital pour les salariés et pour les entreprises de pouvoir bosser quelques heures le matin, quelques heures le soir.
Et réponse d'Armel Le Goff ?
Non, mais justement, vous parliez du rapport de la Cour des comptes sur les cheminots et leur statut ultra privilégié. Je pense que c'est justement tout le discours qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de colère à la SNCF. Et c'est ce qui avait aussi concouru aux grèves de 2018 sur le statut des cheminots, qui va changer à partir du 1er janvier 2020. Mais tout le changement de statut s'est fait avec en toile de fond le discours qui disait « ce sont des nantis, regardez comme ils sont privilégiés ». Non, il faut quand même, ils changent de statut et c'est sans doute une bonne chose pour la compétitivité de la SNCF. Ils vont sans doute changer de statut s'il y a une réforme des retraites qui est mise en place. En tout cas, ils vont accéder au régime universel. Ça demande des efforts à plein de gens qui s'étaient engagés dans une entreprise où les promesses n'étaient pas celles-là.
Et c'est pour ça que la SNCF a obtenu la clause du grand-père.
Mais ils ne l'ont pas obtenue pour l'instant.
Pour la réforme du ferroviaire.
Ah, mais à partir du 1er janvier 2020, le changement de statut.
Voilà. Il n'y a que les nouveaux embauchés à la SNCF qui auront le nouveau statut.
Mais si on veut qu'ils participent, qu'ils rentrent dans le système de retraite universelle, je pense qu'il faut tenir un discours qui est mesuré et pas les... Enfin, honnêtement, ça me paraît compliqué de dire que les cheminots sont des nantis et des privilégiés.
Et on verra pour le coup... Le rapport de la Cour des comptes est à la disposition de nos téléspectateurs et auditeurs.
On verra pour le coup que ce débat se prolongera demain, puisque demain et mardi, en l'occurrence ici même dans les informés, puisque le Premier ministre reçoit les syndicats à Matignon. Et je parie que les débats seront au moins aussi animés que ce soir, 20h40 sur France Info. Guillaume Fariol, le rappel, j'y arrive, de l'info.
Le Var est toujours ce soir en alerte orange inondation. Le département frappé par des pluies diluviennes hier et la nuit dernière. Ces intempéries ont fait 2 morts au Muy et à Cabasse. Au moins 3 personnes sont portées disparues. La décrue est en cours, le risque est derrière nous, dit Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur dans le département cet après-midi à la rencontre des secours. 2 morts dans l'incendie d'un immeuble à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Le bâtiment a abrité des squats d'après la mairie. Il y a aussi 5 blessés dont un grave. Il se trouve dans un état stable selon la préfecture. Il ne faut pas demander aux gens de faire l'impossible ce jour-là. La ministre du Travail appelle les employeurs à être compréhensif le 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Muriel Pénicaud leur demande d'être souple avec les salariés qui auront du mal à se rendre au travail à cause de la grève dans les transports. Selon la police belge, 10 000 manifestants à Bruxelles contre les violences faites aux femmes cet après-midi. Ce chiffre sur de nombreuses pancartes, 22 comme le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex depuis le début de l'année en Belgique. La finale de la Coupe Davis de tennis, l'Espagne mène 1-0 face au Canada. Les Espagnols ont remporté le premier simple, deuxième simple. En ce moment, Rafael Nadal a remporté le premier set face au Canadien Denis Shapovalov.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Neil Alatrousse.
Attaque, les Avis de la Terre et l'Union syndicale solidaire. 3 organisations françaises ont choisi d'enquêter sur les pratiques du géant de l'e-commerce. Et selon elles, Amazon produit autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Portugal. Ce n'est pas le pire. Pour l'économiste Christian Saint-Etienne, invité de France Info.
quand vous êtes avec votre commerçant de centre-ville, même avec votre hypermarché, tous les emplois sont ici.
Il paye ses impôts en France.
Les cotisations sociales sont payées ici.
Ce qui n'est pas le cas d'Amazon.
Les taxes locales sont payées ici. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon, sauf pour quelques entrepôts. Et surtout, les profits sont transférés au Luxembourg pour Amazon, oui. En Irlande pour d'autres e-commerce. Si vous allez voir votre commerce local, il est fiscalisé en France.
Réponse d'Amazon par communiqué. Ce sont des informations trompeuses qui comportent de très nombreuses erreurs factuelles et spéculations sans fondement. François Hernenwein, question pour vous. Faut-il boycotter Amazon ?
Je n'ai pas lancé d'appel en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, je considère que, compte tenu des pratiques dominantes dans la gestion de l'entreprise Amazon, il y a toutes les bonnes raisons de se tenir un peu à distance de son activité. Mais je suis pas obsessionnel, c'est-à-dire Amazon pose des questions, il y a bien d'autres GAFA qui en posent d'aussi douloureuses ou d'aussi scandaleuses, notamment sur le plan fiscal. Christian de Saint-Étienne vient de dire très bien les choses. C'est une distorsion à la concurrence. Et c'est une puissance que les États aujourd'hui qui s'insurgent contre les pratiques fiscales, notamment des GAFA, les États n'arrivent plus à reprendre la main. Le rapport de force est en train de s'inverser. Les GAFA, en gros, à l'échelle du monde, font à peu près ce qu'ils veulent et les États rament derrière. Ça, c'est profondément problématique.
Dans le même temps, Serge Siminaud, l'optimisation fiscale, puisqu'on n'accuse pas d'évasion fiscale Amazon, mais d'optimisation fiscale, c'est pas illégal.
Non, c'est pas illégal, mais on est sur le terrain moral, mais il y a quand même un véritable problème. Ce que disait François, c'est que courir derrière les GAFA, c'est un peu les gendarmes et les voleurs, globalement, d'un peu d'avance. Là, le vol, il est sur les recettes fiscales que pourrait toucher la France. Mais le rapport de...
Même si Amazon dit payer toutes ces
précises,
quand même.
Oui, mais bon, après, c'est effectivement un rapport d'un côté, la réponse de Jeff Bezos de l'autre, mais il y a quand même trois attaques dans ce rapport. Il y a l'environnemental, il y a le fiscal et il y a le social. L'environnemental, donc, c'est pas simplement les avions et les camions de livraison, c'est aussi ce que j'appelle la data pollution, puisqu'on sait que l'échange des données crée aussi de la pollution. Le fiscal, vous l'avez dit, c'est par l'optimisation. Moi, je pense que c'est quand même de l'évasion fiscale, mais bon, peu importe mon avis. Ça,
pas
c'est
du
une
tout,
chose.
Pas du tout.
Non, je veux dire par là que voilà, je vais pas non plus lancer un appel. Et puis le social, c'est quand même l'ubérisation à l'extrême. D'ailleurs, on n'a plus de coup de cœur ici, mais il faut aller voir le film de Ken Loach qui parle entre autres de ceux qui pensent être à leur compte et qui sont en fait victimes d'un système. Je ferme la parenthèse là-dessus. Mais ce qui est étonnant, c'est que on ne parle pas du quand ce rapport sort. On n'est pas loin du Black Friday, qui est le grand événement du e-commerce, et puis on n'est pas loin des fêtes de Noël, où Amazon doit se faire, à mon avis, effectivement, beaucoup d'argent. Donc peut-être que ça peut leur faire du mal, et peut-être que là, on peut peut-être inverser quelque chose.
Armel Le Goff, ce rapport, ça peut faire mal, justement, avant Noël et le Black Friday qu'a évoqué Serge ?
Pas certaine, surtout s'il y a des grèves.
Je suis idéaliste, je le sentais.
Surtout s'il y a des grèves et que, mine de rien, les gens voudront faire leur cadeau de Noël et que pour les commerçants, ces grèves tombent très mal parce qu'ils ont déjà souffert l'hiver dernier avec les manifestations des Gilets jaunes le week-end. Là, on a les grèves qui s'annoncent à partir du 5 décembre et effectivement, se faire livrer à domicile ces cadeaux, ça peut potentiellement être plus simple.
Judith Weintraub.
Ce rapport est fait par des organisations qui sont toutes des adversaires déclarés des GAFAM en général et d'Amazon en particulier, sur tous les plans. Il manque singulièrement d'éléments de sources sur plein de plans. Et en ce qui concerne la fiscalité, il contredit d'autres études qui confortent plutôt ce que dit Christian de Saint-Étienne, à savoir que les GAFA au niveau global, au niveau mondial, payent des impôts, ils en payent environ 24%, c'est-à-dire c'est légèrement supérieur à ce que paye la moyenne de ce que payent les entreprises dans l'OCDE. Mais le problème, c'est effectivement l'optimisation. Et pour lutter contre l'optimisation, la vraie arme qui serait efficace de la France, c'est tout simplement d'être compétitive du point de vue fiscal. Or, elle fait exactement le contraire.
Sur l'emploi, Bruno Majoubi, qui n'est pas dangereux gauchiste, qui n'est ni à attaque ni à solidaire, a parlé de la destruction des emplois.
Oui, et dont le rapport est absolument contesté.
Oui, non, mais on peut contester ceux qui s'attaquent à Amazon, mais à un moment donné,
on n'est pas obligé de dire que des gens qui ont dit « Amazon, c'est le mal absolu.
Non, je dis pas ça,
quand
mais
ils pondent des
vous
rapports,
avez des horizons différents.
Ah oui, c'est effectivement, ils ont raison. Ouais. Il faut quand même savoir d'où viennent les rapports et quelle est l'orientation de leurs auteurs.
Non, mais quand Amazon dit qu'ils créent des emplois, c'est vrai d'un côté. De l'autre côté,
ben
certains
voilà.
disent qu'ils en détruisent lorsqu'ils
oui,
en créent.
Oui, certains disent que.
Voilà, non, mais. On les a
évidemment
cités.
Qu'ils détruisent voilà. des emplois, mais ils en créent aussi.
Je
ne
connais pas Jeff Bezos
personnellement. Et François Ehrenwein en élément de modération, peut-être.
Je découvre que là, vous êtes une militante de la concurrence fiscale et le nivellement par le bas.
J'ai toujours été une militante de la concurrence fiscale et notamment ce qui n'exclut pas d'être une militante de l'harmonisation fiscale en Europe pour qu'on ne se concurrence pas entre nous, mais qu'on soit concurrentiel par rapport au reste du monde. Voilà très exactement ma position.
Très bien, mais elle est très riche, mais vous voyez bien que si vous réglez le problème au niveau de l'Europe, vous l'exportez hors des frontières de l'Europe. Le problème de la concurrence fiscale, c'est un problème qui est assez dramatique, qui encourage l'évasion fiscale, la circulation d'argent sale dans les circuits de l'évasion fiscale. C'est pas de la gnognotte, la pratique de la concurrence fiscale à la baisse. Et un certain nombre d'États, le Luxembourg à l'intérieur de l'Europe, s'est illustré beaucoup. Et les efforts de l'OCDE d'un certain nombre de pays ces dernières années pour lutter contre ces dérives sont fondamentaux à la fois pour une bonne administration
de la fiscalité au niveau mondial et fraude.
Pardon ?
Vous confondez optimisation et évasion, c'est deux choses différentes.
Les fraudeurs fiscaux jouent habilement de ces subtilités entre optimisation et fraude.
Légal et illégal ne sont pas des synonymes.
Judith,
hein,
l'optimisation fiscale.
Sinon, on ne parle pas sérieusement.
L'optimisation fiscale, c'est une ruse de plus pour frauder.
C'est
voilà.
légal. C'est
illégal. Oui, ça conduit à la dissimulation fiscale.
Question à Armelle Le Goff. Est-ce que c'est le rôle de l'État ou du consommateur d'apporter de la vertu dans le marché ?
Mounir Majoubi a essayé. Il avait lancé le Noël des PME qu'il avait annoncé à 20 minutes. Il le remet en place cette année. Les armes sont un tout petit peu inégales.
Les armes un petit peu inégales, nous dit Armelle Le Goff, 20h50 dans quelques instants. Nous écouterons le pape en visite au Japon qui lance un appel contre les armes nucléaires. Nous en débattrons. Est-ce que la France doit désarmer son arsenal? Mais d'abord, le rappel de l'information, 20h50, Guillaume Fariol.
Le préfet du Var craint des dégâts considérables. La décrue est en cours sur la Côte d'Azur après les pluies diluviennes. 2 morts dans le Var et au moins 3 disparus, dont un couple de retraités introuvables depuis hier après avoir pris sa voiture. Le département est toujours ce soir en vigilance orange, inondation tout comme le Puy de Dôme. L'Italie également touchée par des pluies torrentielles, une femme est morte dans le Piémont, sa voiture emportée par une rivière en crue. Et puis plus au sud, Venise de nouveau sous les eaux, une marée haute de plus, loin tout de même de l'Acqua Alta record de la semaine dernière. L'enquête se poursuit à Ivry-sur-Seine pour déterminer l'origine de l'incendie d'un immeuble de cette ville du Val-de-Marne. 2 personnes sont mortes à la mi-journée. Le bâtiment a abrité plusieurs squats selon la mairie. De longues files d'attente devant les bureaux de vote à Hong Kong. 70% de participation pour les élections locales d'aujourd'hui. Après 6 mois de crise, le mouvement pro-démocratie espère un bon score pour peser face aux autorités pro-Pékin. Il dit vouloir reconstruire l'Amérique. Le milliardaire Michael Bloomberg, officiellement candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de l'an prochain. L'ancien maire de New York, 77 ans, qualifie de menace existentielle l'actuel président Donald Trump. Coup d'envoi dans un peu moins de 10 minutes. Toulouse reçoit Marseille en clôture de la 14e journée de Ligue 1 de football. Avant cela, la victoire de Bordeaux 2-1 contre Monaco. Match nul, 0 partout pour Saint-Étienne-Montpellier.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Neil Alatrousse.
Un pape au Japon, c'est une première depuis 1981. Le souverain pontife est arrivé hier dans l'archipel depuis Hiroshima et Nagasaki. Il s'est livré aujourd'hui à un plaidoyer contre les armes nucléaires.
L'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est aujourd'hui plus que jamais un crime. Non seulement contre l'homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d'avenir dans notre maison commune.
François Ehrenwein, un commentaire ?
Ce sont des paroles fortes et bien utiles. Alors, par mes études, j'ai compris ce que la dissuasion avait apporté à la paix du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous savez, la dissuasion, ça a un autre nom. Ça s'appelle aussi l'équilibre de la terreur. Et je pense que c'est au pape de porter des paroles d'espoir et des paroles porteuses d'avenir. Et en disant ça, il indique bien les limites de l'architecture construite depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour assurer des formes de paix armée. Et la course aux armements a conduit à des folies financières, des folies absurdes pour l'équilibre du monde.
Une précision, François, est-ce que c'est le chef d'État ou le guide spirituel qui s'exprime ?
À mon avis, le Vatican n'a pas la bombe atomique, donc
que l'on sache,
il n'aurait pas grand-chose à défendre là-dedans. À
mais ils sont signataires de traités, hein, d'ailleurs, de non-prolifération.
Oui, mais moi, je pense que la vision portée par François, là, est proprement prophétique. Je pense que, après l'équilibre de la terreur que j'évoquais tout à l'heure, on peut espérer que le monde changera petit à petit de logique pour se projeter vers des avenirs un peu plus radieux et un peu moins irradiants.
Gilles Ventrop, c'est le rôle du pape François de tenir ce discours ?
Tous les papes ne l'ont pas fait. Jean-Paul II, qui est le dernier à être venu au Japon en 81, a dit l'année suivante qu'une dissuasion basée sur l'équilibre comme voie vers le désarmement pouvait être jugée moralement acceptable. Donc c'est quand même un changement.
Non, mais cette logique-là consistait à dire que c'était un mal nécessaire. Là,
voilà,
on franchit un cap.
C'est tout ce que je dis, que c'est un changement. C'est un cap qui fait franchir. C'est franchir un cap qui imprime un changement de position à l'Église, mais que le pape dise que ce serait beaucoup mieux qu'on se parle plutôt qu'on s'envoie des bombes, je suis pas spécialement choquée. Ça serait effectivement mieux si la fraternité régnait sur Terre. Maintenant, où est-ce qu'il va dire ça ? Il va dire ça au Japon, où non seulement il y a extrêmement peu de catholiques, il y en a 0,35%. Oui. Je suis allée regarder, et en plus ce chiffre est en baisse. Et au Japon, le thème du désarmement nucléaire est évidemment extrêmement populaire. Il ne faut pas non plus oublier cette dimension-là. Le pape fait aussi la politique.
Mais c'est un élément de contexte. Si à Hiroshima et à Nagasaki, on ne dénonce pas les horreurs de la bombe, où le ferait-on ? Moi, je pense symboliquement, c'est très fort de dire ça à Hiroshima et Nagasaki.
Serge Simino, c'est vrai que le mouvement anti-nucléaire, Judith Weintraub signale qu'il reste fort au Japon et le discours, effectivement, peut imprimer, mais ailleurs, il y a eu un mouvement dans les années 70 qui s'étiole petit à petit, on le constate aussi.
Oui, enfin, ça reste quand même l'un des points des tensions dans le monde. Parlons du nucléaire iranien. Enfin, ce débat-là n'est pas simplement post-Hiroshima ou post-Nagasaki. Il se pose aujourd'hui pour des nations qui, bon, certains disent qu'ils sont en train d'acquérir la bombe, d'autres disent que non. La différence entre le civil et le nucléaire militaire. Mais pour autant, le pape, si j'ai bien compris tout ce qu'il a dit, il appelle à une paix désarmée, considérant que ce n'est plus l'époque où la dissuasion est une sécurité. Mais je crois même qu'il l'a dit de cette façon-là. C'est une fausse sécurité. Donc c'est un pape qui est pour la paix, d'une certaine manière. Ça, c'est assez classique.
C'est normal.
Voilà, hein, c'est pas les Miss France qui sont pour la paix dans le monde. C'est quand même le pape François. Donc c'est pas une parole anodine. Après, ce débat-là, il faudrait le porter auprès de Monsieur Trump, en Iran, où on voit des tensions entre la position américaine et la position européenne vis-à-vis du nucléaire civil ou du nucléaire militaire. Pour le reste, pourquoi pas tenter d'arrêter cette dissuasion par le nucléaire et avoir une paix désarmée.
On met Le Goff et François Hennenwein en conclusion.
Je pense qu'il se pose effectivement vraiment comme un guide spirituel et qu'il il tente de d'apporter enfin une pierre à l'édifice des relations internationales, et il a une voix quand même qui porte sur ces questions.
François ?
Mais ça peut sembler, comme certains semblent dire autour de cette table, d'une banalité de base de soutenir cette position.
C'est un message fort pour vous ? Pour vous, c'est un message très fort ?
C'est un constat pragmatique que je fais. Aujourd'hui, regardez comment la question nucléaire empoisonne les relations internationales. On a évoqué l'Iran, les États-Unis. On voit bien que la perspective nucléaire est la cause de conflits qui n'aboutiront pas forcément à une vitrification du monde, mais qui arriveront en tous les cas à créer des tensions, à freiner les coopérations. L'équilibre de la terreur, c'est une logique qui va contre la négociation, la concertation et la coopération pour trouver ensemble des solutions. C'est peut-être banal de le dire, mais c'est en tous les cas utile.
Merci à vous pour ces débats riches et nourris, 20h57 sur France Info. Merci à Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, François Ernenwein, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, Judith Weintraub, reporter politique au Figaro Magazine, Serge Simino, journaliste au service politique de France 3. Demain, vous retrouvez Jean-François Aquili à cette même place. Bonne soirée sur France Info.